Ce matin, je vais vous parler du bonheur. Êtes-vous heureux ?
Oui.
Oui, alors c'est magnifique. Alors ce matin, je pense que quand vous allez rentrer à midi, vous savez, des fois on écoute une mélodie qui revient chaque fois. Ben, je vais l'utiliser souvent, ce terme de bonheur, ce matin. Alors ne vous inquiétez pas, si quand vous rentrez à midi, vous entendez bonheur, bonheur dans votre... Le mot qui revient, c'est que vous l'aurez suffisamment entendu ce matin. Le bonheur, voilà. Alors, quelle est la recette du bonheur ? Quelle est votre recette du bonheur ? C'est le titre de ma prédication. Le bonheur, le mot lui-même fait rêver. Il y a beaucoup de films, de romans, de témoignages qui sont construits autour de ce thème. Le bonheur. Toujours recherché, jamais pleinement possédé. Parfois, il nous apparaît trop grand. Ouais, tout ça pour moi, c'est pas possible. Des fois, il paraît un peu étriqué. Nous pleurons sur lui quand nous l'avons perdu et nous l'espérons quand nous ne l'avons pas encore eu. Certains disent que le bonheur est inaccessible. Mais d'autres gens disent qu'ils l'ont trouvé. Difficile de définir le bonheur tellement il y a d'ingrédients. Mais une chose est sûre, les amis, nous cherchons tous à être heureux. Tous nous avons soif de bonheur. L'idée du bonheur nous aide à traverser les aléas, les revers et le fleuve de la vie. Le bonheur est-il une chose à obtenir ou un don à cueillir ? Écoutons-nous parler. Nous parlons volontiers du bonheur, comme s'il était derrière nous ou comme s'il allait venir devant nous. Mais souvent, il est tout près de nous. Il aime marcher à nos côtés. Il est là. Et qui n'a jamais entendu cette expression ? Ah, vous savez, c'était le bon temps. Sous-entendu, le temps où nous étions heureux. Voici la définition du bonheur selon le petit Robert. État de pleine satisfaction. Synonyme, joie, béatitude, félicité. Notre définition, le bonheur, et ce qui rend heureux. Mais voilà, comment y parvient-on ? Quelle est la recette du bonheur ? Alors, je l'ai cherché sur Internet pour voir. Alors là, il y a multitude de sites. Ah, il y a tout. Et je vous ai quand même pris quelques petits ingrédients. S'entourer de gens heureux parce que le bonheur est contagieux. Savoir débrancher et se donner du temps. Donc, s'arrêter. Faire preuve d'un peu de volontarisme. Tout ne vient pas tout seul. Prendre du temps pour du bénévolat. Voir le verre à moitié plein. C'est mieux. Ça permet de le vider. Avoir un chat. Alors ça, c'est, j'ai trouvé ça marrant. Pourquoi pas ? Profiter de l'instant et du moment présent. Enfin, bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, il y en a. Mais soyons un peu plus sérieux. Certains auteurs pensent que l'on parvient au bonheur en cultivant les bonnes relations, en ayant des biens, une famille aimante, de l'argent, des amis, du temps libre, beaucoup de personnes sur Facebook... Et des vacances, ben ça c'est le bonheur que beaucoup recherchent. Ou bien par des activités personnelles où l'on s'engage. Par exemple, à des actions de solidarité ou des actions humanitaires. Ou bien, plus terre à terre, je dirais, mais quand même avec le nez dans le ciel, avoir la pratique d'une religion ou d'une spiritualité quelconque, méditation, retraite silencieuse, etc. Et puis, pour terminer, on trouve quand même dans les études plus poussées de la psychologie, parce qu'il faut quand même que la psychologie dise quelque chose, il y a par exemple la théorie de l'autodétermination, qui, si vous suivez ces trois principes, vous allez peut-être pas immanquablement être heureux, mais en tout cas être sur la bonne voie. Prendre soi-même ses décisions, c'est pas mal, j'accepte. Être sûr de soi dans ses activités, donc avoir confiance. Et puis finalement, avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Ça, c'est aussi important, on ne fait pas grand-chose tout seul. C'est un vaste sujet, n'est-ce pas? Et paradoxalement, le bonheur est un mot assez rare dans la Bible. Mais elle en parle tout de même. Et forcément, eh bien, elle mêle Dieu à notre bonheur humain. Un peu, beaucoup, mais ça dépend de nous. Comment Dieu est-il dosé dans notre bonheur? Est-il bien équilibré? Imaginons une recette. Voyez-vous, on est à la fin de l'année et on reçoit toujours passablement de recettes culinaires dans les boîtes aux lettres, pour les petits biscuits et autres. Alors j'ai pensé à la recette culinaire, à la recette du bonheur. Alors vous prenez 200 g d'amitié avec des gens heureux, 300 g de biens matériels, 150 g de sport pour garder la forme, 50 g de bénévoles pour se donner bonne conscience, 20 g de lutte contre le stress, ça peut aider, et incorporer en mélangeant vigoureusement entre 50 à 350 g de Dieu selon vos goûts. Chacun est libre de faire sa propre recette. Mais avant d'aller plus loin, après avoir survolé toutes ces questions, ces affirmations, ces réflexions concernant le bonheur, la question se pose. Sommes-nous heureux ? Alors la question est simple, ça c'est sûr, trois mots. La réponse peut-être est un peu plus compliquée. Car pour chacun dans la vie, vous savez qu'il y a des hauts, il y a des bas. Puis aussi il y a des personnes où tout semble réussir. Regardez au loto par exemple, il y en a qui se tapent tous les paniers, puis les autres n'ont rien. Il y en a d'autres qui ont des gros problèmes. Et puis, il y a aussi des circonstances de la vie heureuse ou la vie malheureuse. Mais notre question maintenant, ce matin, c'est à quoi ressemble le bonheur des hommes lorsque Dieu s'en mêle ? Nous connaissons tous, plus ou moins, le ministère de Jésus. Et en y réfléchissant bien, nous nous rendons compte que ce ministère est hors cadre, n'est-ce pas ? Jésus va de village en village et il guérit. Aucune maladie ne lui résiste, ni aucun démon d'ailleurs. Mais il ne se contente pas de guérir, il enseigne et il prêche. Et son tout premier enseignement parle justement du bonheur. Et nous pouvons le lire dans l'évangile de Matthieu. Dans ce dernier, l'évangéliste a catalogué les principaux discours de Jésus, les principaux enseignements. Mais le premier, c'est le sermon sur la montagne. Et ce premier grand discours commence par les célèbres béatitudes. Tout le monde les connaît. Qui commence par « heureux ». Et je pense que ce n'est pas un hasard si le premier enseignement annoncé par Jésus sont les béatitudes. Elles contiennent une charte, une loi, des règles fondamentales du royaume de Dieu. Elles nous enseignent ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut notre bonheur. Il veut que nous soyons heureux. Mais voilà, qu'est-ce qu'être heureux pour Jésus ? Eh bien, je vais d'abord vous lire les Béatitudes. Et vous verrez que son enseignement est hors cadre. Il ne correspond pas nécessairement au premier conseil du début de ce prêche. Matthieu 5, 1 à 12. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire une remarque pour préciser et insister qu'il s'agit ici d'une prédication solennelle, et pour trois raisons. On a tendance à connaître ces béatitudes, on les répète, heureux, 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 comme un peu comme on connaît des textes, mais ça, c'est vraiment quelque chose de solennel. Et Jésus a commencé par ça. D'abord, Jésus gravit, j'aimerais relire le premier verset. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et qui nous enseigne comment il conçoit notre bonheur. Ce n'est pas anodin, n'est-ce pas? Mais des paroles de bonheur, de prime abord, nous ne pouvons pas dire qu'elles sont vraiment enthousiasmantes si nous les lisons comme ça en vitesse, qu'elles sont vraiment séduisantes. Certes, Jésus fait des miracles formidables et surprenants, mais là, sa recette du bonheur qu'il nous propose n'est pas terrible. En tout cas, pas comme nous l'imaginons. Heureux les affligés, heureux les persécutés. Quelle drôle d'idée. Mais en y regardant de plus près, vous verrez que ces béatitudes sont de véritables perles. Écoutez attentivement, vous allez comprendre. Heureux, dit Jésus, heureux sont-ils ceux, car le royaume des cieux est à eux, car ils verront Dieu, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans le bonheur de Jésus, il y a une place pour Dieu, et ce n'est pas une petite place à côté du reste. Du style, j'ai un Dieu, j'ai une maison, j'ai un animal, j'ai un travail. Non, 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 c'est pas ça. Dans le bonheur selon Jésus, Dieu ne fait tout simplement pas partie de la liste. Dieu est lui-même mon bonheur, notre bonheur. Écoutez encore la suite. Réjouissez-vous, dit Jésus, car Dieu vous est promis. Le royaume des cieux est à vous. Vous habiterez chez lui. Il vous consolera. Il vous rassasiera, il vous comblera, il se penchera sur vous. Dieu, vous verrez Dieu, il se laissera regarder et vous serez appelé fils de Dieu. Et il vous traitera comme si vous étiez ses enfants. Vous êtes ses enfants. Waouh, c'est quand même pas mal, hein, quand on y regarde un peu plus près. Mais il y a un mais, il y a toujours un mais. Oui, mais. Tout cela, dit Jésus, c'est pour le futur. Ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour demain. Aujourd'hui, eh bien, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un appartement, un logement, une maison, un travail, mais je ne possède pas Dieu. D'ailleurs, je ne pourrai jamais posséder Dieu. C'est lui, au contraire, qui m'enveloppera complètement de son amour et qui m'enveloppe déjà depuis que je suis converti et qui m'aime depuis la création du monde. En fait, ce bonheur que Jésus nous propose n'est pas fait pour être vécu tout de suite. De plus, il ne nous appartient pas, car c'est Dieu qui prend l'initiative, qui nous accueille dans son royaume. Et c'est Dieu qui fait tout. Est-ce que nous voulons vraiment d'un tel bonheur? Ne préférions-nous pas plutôt de plus petits bonheurs qui soient à notre portée, des bonheurs à l'échelle de nos voies, vie humaine, quelque chose que nous puissions toucher, gérer, contrôler, bref, des bonheurs qui dépendent de nous, de nos futures forces, de nous et de nos forces, et dont nous sommes fiers d'en être les artisans. Prenons par exemple des relations amicales que nous soignons par des invitations à la maison, des vacances en famille, des anniversaires où toute la fratrie se réjouit et s'amuse entre amis, des conversations animées autour d'une bonne bouteille, l'achat de biens matériels que nous désirons, la liste peut être longue. C'est des petits bonheurs qu'on maîtrise. Mais je ne maîtrise pas mes feuilles. Ce sont des bonheurs, et heureusement que nous les avons, ces bonheurs, car ils font partie de la vie, et continuons de les cultiver, loin de là, l'idée de les enlever. Ils nous aident à aimer la vie. Mais ces bonheurs sont des bonheurs de consommation immédiate, nous dit Jésus. Ces bonheurs-là sont périssables. Ils ont tous une date de péremption. Et tout peut s'écrouler si vite. Il y a tant de choses qui menacent ce fragile échafaudage du bonheur, de nos petits bonheurs. Un deuil, une rupture, une trahison, une maladie grave, un accident, une faillite, et tout s'effondre. Jésus nous exhorte de mettre notre bonheur ailleurs, de le mettre dans des mains plus sûres, dans les mains de Dieu. Dieu qui est plus fort que la mort. Dieu qui reste avec nous quand nos proches nous ont quittés ou abandonnés. Dieu qui restera près de nous si notre esprit, si notre mémoire commence à avoir des blancs et que nous ne sommes plus très bien où nous en sommes, ou que si notre santé vacille, Dieu sera toujours là. Mettons Dieu aux commandes de notre bonheur. Mais cela en modifiera les priorités, les amis. Il n'aura plus exactement le même goût parce que nous ne pourrons plus le consommer tout entier, tout de suite. Mais il sera là, dans le futur, quand nous aurons besoin de lui. Tout ceci, me direz-vous, est bien joli. Mais ça ne m'indique pas comment faire. Comment faire pour mettre Dieu aux commandes? Qu'est-ce qu'on fait? Alors Jésus, dans les Béatitudes, nous dit comment faire et à quoi ressemble l'amour de Dieu pour nous. Dans ses paroles de bonheur, Jésus ne se contente pas de décrire le tableau idéal du bonheur, mais il nous dit comment il faut faire. Il nous montre aussi comment la vie de Dieu passe dans la nôtre aujourd'hui déjà. Dieu est déjà à l'œuvre maintenant. Heureux, oui, heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui sont compatissants, qui ont le cœur pur. Heureux les artisans de paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. La vie de Dieu peut venir passer à travers la nôtre quand nous reconnaissons notre pauvreté intérieure, quand cette pauvreté nous pousse à traiter les autres avec humilité et douceur, quand l'injustice nous touche profondément, quand le malheur des autres nous fait pleurer, quand notre cœur est touché, quand les guerres et les violences nous poussent à agir ou à réagir. On peut le dire autrement, le bonheur selon Jésus vient encore par-dessous nos bonheurs humains, de la vie courante. C'est comme un socle. Le bonheur de Jésus est le socle. Jésus est la pierre angulaire. Il est ancré dans cette promesse de Dieu que même si nous ne voyons pas la solution, même si objectivement nous ne pouvons que pleurer, Dieu est là. Et dans notre sensibilité, dans notre désir de changement, dans notre quête de justice, dans notre vulnérabilité, le royaume de Dieu se manifeste déjà. Mais attention, j'aimerais apporter une remarque ici importante à mes yeux. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes faibles et vulnérables. Non. Mais nous sommes heureux parce que nous nous sommes laissés toucher par Dieu, parce que nous sommes ouverts, sensibles à ce que Dieu veut nous donner quand nous sommes faibles et vulnérables. Ce n'est pas la même chose. En lisant attentivement les Béatitudes, nous nous rendons compte bien sûr qu'elles décrivent des situations bien différentes les unes des autres, mais elles se ressemblent sur un point, celui de nos points faibles, celui où nous sommes vulnérables. Le pauvre et l'endeuillé n'ont rien demandé, et malgré tout leur position est vulnérable. Celui qui lutte pour la justice, celui qui œuvre pour la paix, ne peut pas s'empêcher de faire autrement, car son cœur s'est laissé toucher. Il est vulnérable. Heureux les blessés, heureux les touchés, heureux les vulnérables, nous dit Jésus, car ils sont ouverts, réceptifs à ce que Dieu peut leur donner. Ils ont de la place dans leur cœur pour lui. Et Jésus le promet. Dieu vient, Dieu prend cette place. Notre orgueil, nos forces, nos moi-je, les je sais tout, peuvent l'arrêter, mais pas nos faiblesses. Dieu s'y installe pour préparer son royaume. Heureux sommes-nous si nous ne voyons pas la vulnérabilité. Cette vulnérabilité qu'en tant qu'humains, nous avons tous des points faibles. Nous sommes tous faibles quelque part. Alors, heureux sommes-nous si nous ne voyons pas la vulnérabilité comme une faiblesse à cacher, à maîtriser ou à combattre, mais comme un lieu où Dieu nous touche, nous rejoint, où nous pouvons entendre quelque chose de son cœur et le transmettre. C'est à ce moment-là que nous sommes forts, car nous laissons Dieu agir à travers nous. Heureux sommes-nous si nous sommes touchés et concernés à la vue de personnes SDF dormant dehors sur des cartons, avec de vieilles couvertures par une froide nuit d'hiver, et que nous œuvrons d'une manière ou d'une autre pour les aider. Dieu aussi en est ému. Heureux sommes-nous si nous ne supportons pas les rancunes et que nous faisons le premier pas pour la réconciliation et le pardon. Dieu aussi veut la paix. Heureux sommes-nous si, en regardant le journal de 19h30 ou 20h, nous ne restons pas indifférents et imperméables à la misère du monde. Dieu aussi a le cœur qui saigne. Heureux sommes-nous si nous nous laissons remuer, blessés, touchés par Dieu et par les hommes, car l'un ne va pas sans l'autre. Oui, voilà le bonheur. Non pas parce que c'est agréable ou que cela nous met en joie, mais parce que Dieu est là. Heureux ceux qui ne se protègent pas. Heureux ceux qui ne peuvent même pas se protéger. Heureux sont-ils parce qu'ils ne mettent pas de limites dans leur vie, à la présence de Dieu dans leur bonheur. Ils acceptent de rester vulnérables, pour certains jusqu'à leur chair, à cause de leur foi. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous persécute. C'est d'ailleurs un combat pour ne pas s'endurcir, pour ne pas lever des barrières entre soi et les autres, pour ne pas lever des barrières entre soi et Dieu, pour ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire, mais de rester un veilleur, réceptif, attentif. C'est notre combat aujourd'hui lorsque la conquête effrénée du bonheur à tout prix menace d'occuper toute la place en excluant de rechef la présence de Dieu et de notre prochain. Heureux sommes-nous si nous creusons inlassablement en nous la place pour notre prochain, la place pour la grâce de Dieu. C'est peut-être un combat moins spectaculaire que d'autres, car notre ennemi est moins visible, mais tout aussi redoutable. Notre ennemi, dans ce cas-là, n'est pas la peur du péché ou la peur de l'enfer, mais notre ennemi ici, c'est la peur du vide. La peur du vide de notre existence, qu'il nous faut à tout prix combler par toutes sortes de petits bonheurs. Pourtant, Jésus proclame, « Si nous sommes pauvres, nous ne sommes pas pauvres dans le vide. Si nous sommes blessés, nous ne sommes pas blessés dans le vide. Si nous nous laissons toucher, nous ne sommes pas touchés pour rien. Il y a du bonheur parce que Dieu est là et qu'il est en contrôle et qu'il promet d'achever là son œuvre. » Jésus ne nous demande pas de ressentir ce bonheur qui passe en nous, mais il nous promet que le jour viendra où nous le sentirons. Nous n'avons pas le contrôle de notre bonheur. Notre bonheur vient de ce que nous avons. Nous savons que Dieu viendra aussi sûrement que le soleil se lève derrière les Alpes à l'aube. Nous sommes véritablement au chemin entre nos petits bonheurs et tous les grands de tous les jours est le grand bonheur, la grande béatitude que Dieu nous promet pour le futur. Nous sommes en chemin. Et cette idée d'être en chemin est non seulement énoncée par les béatitudes que je viens de vous dire, mais elle est aussi à voir avec l'étymologie du mot « heureux ». Quand Jésus a prononcé ses béatitudes, il a parlé en araméen. Il faut donc se demander ce que cela signifie en hébreu. C'est un genre de formule courante dans les psaumes, par exemple. Nous pouvons lire dans le psaume 1.1, là d'ailleurs les psaumes commencent comme ça, « Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants. » Heureux. Ou bien le psaume 112, « Heureux l'homme qui s'appuie sur le Seigneur. » Et il y en a d'autres, j'en ai pris que juste deux. Le mot vient d'une racine qui signifie « marcher ». La Bible, traduite par Chouraki, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous l'avez dans votre bibliothèque, mais je vous la recommande de temps en temps pour aller chercher d'autres informations. La Bible, traduite par Chouraki, traduit d'ailleurs ce mot « heureux » par « en marche ». Alors je vais vous lire quelques versets en remplaçant « heureux » par « en marche ». Et vous verrez, ça change. « En marche les humiliés du souffle, les faibles en esprit, les humiliés du souffle, oui, le royaume du ciel est à eux. En marche les endeuillés, car ils seront réconfortés. En marche les affamés et les assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. En marche quand ils vous outragent, quand ils vous persécutent, en mentant, vous accusant de tout crime à cause de moi. Jubilez, exaltez, votre salaire est grand dans le ciel. Ainsi, oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, ceux d'avant vous. » Voyez-vous, ça la donne une autre dimension, une dimension dynamique et non statique du bonheur. Le bonheur est en marche, le bonheur est une marche. Et l'on pourrait dire que les béatitudes décrivent le bonheur de ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Les béatitudes décrivent le bonheur de ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Voilà pourquoi à chaque béatitude est associée une promesse. La première et la dernière sont les mêmes. Elles sont les seules au présent. Le royaume des cieux est à eux. Mais le royaume de Dieu est une réalité en mouvement, en devenir, une espérance en marche. C'est pourquoi toutes les autres sont en futur. Les autres promesses soulignent que ceux qui en seront bénéficiaires trouveront la réponse à leurs souffrances. Ils seront consolés, rassasiés, recevront de la compassion, d'incomparables récompenses. Ils hériteront la terre. Ils verront Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Ainsi, si l'on prend conscience de toutes ces promesses, c'est en effet un sort enviable. Oui, ils sont heureux, ceux qui marchent dans les voies du Seigneur. Il ne faut pas chercher le bonheur comme un état statique. Le bonheur est une marche à la suite du Christ. C'est une succession de découvertes, les unes après les autres. Et si ce bonheur est en marche, alors gardons-nous de l'arrêter. En d'autres termes, le danger pour ce bonheur, c'est de s'arrêter, soit parce qu'on pense être arrivé au bout du chemin, mais je sais tout, donc c'est bon, je suis tranquille, soit parce qu'on se laisse distraire par quelque autre chemin, peut-être plus lumineux ou plus émoustillant, qui nous paraissent de prime abord, soit parce qu'on se laisse gagner par le découragement en disant « finalement, c'est trop dur ». Les béatitudes sont un appel à nous mettre en marche et de poursuivre la route avec le Seigneur. Alors en marche ! En marche à la suite du Christ et nous serons heureux. Pour conclure, j'aimerais citer le pasteur Martin Luther King, dont on a commémoré les 50 ans de son assassinat au printemps de cette année. Il a écrit le 4 avril 1964. Voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je crois qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Waouh ! Derrière ces mots, il y a une foi vivante. Derrière ces mots, il y a une faim, une soif de justice. Et voyez-vous, sans user de violence, ces mots, ces paroles ont mis en marche un pays. Ont mis en marche un grand pays dont l'héritage reste vivant encore aujourd'hui. Alors peut-être qu'à notre niveau, finalement, revenons à nous, peut-être qu'à notre niveau, quand dans notre vulnérabilité, dans notre vie entière est touchée par la présence de Dieu, nous sommes nous aussi en marche, même peut-être sans le savoir, même peut-être sans le voir, sur le chemin du bonheur. Amen.